Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Michel Simon vivait au milieu d'animaux et il était lui-même un drôle d'animal. Affublé d'un corps, d'un visage et d'une voix pareille, il fallait être Michel Simon et personne d'autre pour en jouer avec autant de talent et de finesse. Scandaleux, obscène, on sait qu'il était un habitué des bordels, grand amateur de pornographie, détenteur d'une collection unique de films, de photographies et d'objets érotiques. « Si j'obtiens un jour le respect, ce sera à cause de mon grand âge, disait-il. Ce serait quelque chose de nouveau pour moi. Je voudrais en tâter aussi. Il faut goûter de tout. C'est peut-être pas désagréable. » Scandaleux, obscène, mais aussi esprit fin, cultivé, amoureux passionné de littérature et acteur de génie. Il faut revoir encore et toujours Michel Simon dans La Chienne, dans La Talente, dans Boudu, dans La Poison, dans Fric-Frac ou Circonstances atténuantes, avec Jean Renoir filmé par Jacques Rivette pour Cinéaste de notre temps. Il faut l'entendre chanter comme de bien entendu Mémère de Bernard Dimé, L'herbe tendre en duo avec Gainsbourg, où elle était patente. Revoir et réentendre toujours Michel Simon, monstrueux et sublime, tendre et effrayant. En 1956, il avait un peu plus de 60 ans et il recevait chez lui Luc Bérimont pour Les Chemins du Jour. Il parlait de sa découverte de Paris arrivant de Genève, de son amour pour la capitale, de ses débuts au théâtre, au cinéma, de son goût pour la photographie et de Zaza, sa guenon.
Dans le cadre de l'émission Les Chemins du Jour, Luc Bérimont présente Michel Simon. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide, avec les voix d'Armontel, Muse d'Albret et Tristan Sévère. Mise en onde, Bernard Gandré-Réty. Collaboration artistique, Anne Spies.
C'est Luc Bérimont qui vous parle. Mesdames et messieurs, les vacances peuvent procurer quelquefois cette occasion exceptionnelle que nous guettions depuis longtemps de consacrer une émission à un personnage célèbre, voire trop connu du public, dont la renommée, justifiée mais toujours déformante, finit par masquer le vrai visage. C'est pourquoi nous vous présentons ce soir un Michel Simon inconnu, un géant débonnaire et lucide que vous croyez assurément connaître, puisque vous avez encore dans l'oreille les intonations du Clo-Clo de Jean de la Lune, la pièce de Marcel Achard, intonations que nous retrouvons du reste enfouies dans les sillons d'un vieux disque.
Je suis le frère de Marceline.
Oh, enchanté.
Son vrai frère, parce qu'à un moment donné, elle en a eu un autre, un faux, un mufle. D'ailleurs, c'était pas moi.
Ah.
Non, je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Heureusement, sans ça. Non, je faisais mon service militaire, dans les Zouaves, à Sidi Bel Abbès. Les campagnes d'Afrique, j'en ai plein le dos. On y marche bien trop vite, on y boit que de l'eau. Drôle d'odeur.
Oui, c'est...
Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais, ici?
Si, c'est le parfum. J'ai un peu vaporisé la pièce.
Ah, je croyais que vous étiez fleuriste.
Non, pas fleuriste, artiste en fleurs.
Ah, vous feriez mieux de vous servir carrément de vos produits. Notez que je ne suis pas ennemi des parfums, seulement pas trop n'en faut, comme disait mon ami Chaussin. Un rigolo, celui-là, c'est l'auteur de la chanson. C'est parce que je t'aime, que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours. C'est charmant, il y a des couplets comme ça. D'ailleurs, j'adore les chansons.
Écoutez, monsieur,
Mais qu'est-ce que vous avez sur le nez? Ah, c'est un bouton. C'est embêtant, ça, les boutons, surtout quand ce sont des furoncles. Chaussin, tenez, Chaussin avait un furoncle comme ça, la fesse. Aucun rapport avec votre bouton, naturellement, mais ce qu'il a pu souffrir.
Ah.
Il ne pouvait plus s'asseoir. Moi, je peux.
Comment?
Je dis, je peux m'asseoir.
Ah oui, mais je vous en prie, asseyez-vous.
Vous êtes musicien?
Non.
Dommage.
Oui.
Moi, je suis compositeur.
Ah.
Oui, je suis l'auteur de la chanson. Vous connaissez?
Non, excusez-moi.
Il est vrai que comme je chante faux, vous ne pouvez pas reconnaître l'air.
Mais ça ne vous gêne pas dans votre métier?
Je chante faux, mais j'entends juste.
Certes, toute une génération a encore présente à l'esprit l'histoire du frère abusif de Marceline, du furoncle et du prix du Porto. Clo-Clo a décidé de la carrière cinématographique de celui qui déclare à présent
« Je n'ai jamais cherché à faire rire. Jamais. Le comique doit naître, je pense, d'une très grande sincérité. J'espère bien finir ma carrière sans devenir un guignol. »
Et certes, nous allons pouvoir constater dans un instant que derrière l'immense comédien aux 50 pièces et aux 60 films que chacun croit connaître, se cache un homme à la personnalité profonde, attachante, secrète, une espèce de Saint-François d'Assise laïque qui, loin de la rumeur des villes et des studios, comprend et parle le langage des bêtes, accordé au drame d'une fourmi, d'un chien perdu, d'un singe, d'un oiseau, d'un petit canard jaune, capable, dans sa retraite de Noisy-le-Grand, d'écouter pendant des heures un chant de rossignol monté dans la futaie. Paul Gutt a écrit de lui.
De taille monumentale, il a l'air d'un bébé immense ou d'un athlète en pantoufles. Il se tord dans des mimiques de gêne, dans des courtoisies de Bouddha. Soudain, il flûte des minauderies de fillette dont il est le premier à rire. Il s'assombrit, philosophe, vitupère. Il ressemble au cyclope Polyphème que ne gouvernait aucune loi. Ennemi de toute domination, il est aussi le frère de Caliban.
C'est en compagnie de ce Michel Simon que nous vous convions à passer une heure. C'est avec le heurtoir de sa porte que nous allons frapper les trois coups. Michel Simon, l'histoire rapporte que vous êtes né le 9 avril 1895 à Genève, dans la Grand-Rue, et je crois que vous étiez même le voisin de Voltaire, n'est-ce pas?
Plus précisément de Jean-Jacques Rousseau. Oui, je suis né au 27 et mon ami Jean-Jacques au numéro 40. La maison où il est né a été démolie, du reste. Voltaire, par contre, avait une imprimerie qui imprimait ses œuvres. Rue des Belles-Filles, laquelle rue a été débaptisée et devenue la rue Étienne-Dumont. Oui, c'était une rue extraordinaire, la Grande Rue de Genève, parce que Genève est une vieille ville qui, comme Paris, compte 2000 ans d'âge. Et cette Grande Rue était pleine de souvenirs extraordinaires. Balzac y courtisait Madame Hanska, chez un botaniste non loin de la Grande Rue. Madame de Staël vivait dans la Grande Rue également, et tant d'autres. Et Grétry, le grand compositeur français, a composé son premier opéra au 29 de la Grande Rue, à côté de chez moi.
Et quelles étaient vos relations de voisinage avec Voltaire, notamment? C'était un voisin que vous aimiez ou c'était un voisin que vous détestiez?
Je ne pouvais pas l'aimer puisqu'il était l'ennemi juré de Jean-Jacques et que Jean-Jacques était mon voisin direct.
Et de votre milieu familial, Michel Simon, vos parents, que faisaient-ils?
Mes parents étaient charcutiers, ils tenaient une charcuterie à la Grande Rue, et mon père était surtout numismate, il s'intéressait à l'histoire, et à toutes les histoires, celles de Chine autant que les autres. Il avait une mémoire prodigieuse qui lui permettait de retenir toutes les dates, et il était devenu expert en numismatique, de sorte que souvent des clients venaient à la maison pour acheter un peu de salami, mais surtout pour faire authentifier une pièce. Et il y avait des dialogues savoureux entre mon père et ma mère dans la petite boutique de la Grand Rue, où ma mère disait, mais enfin, laisse-moi servir les clients, ou bien aller discuter de numismatique dans l'arrière-boutique, laissez-moi la place. Voilà, quelle fut mon enfance.
Et votre éducation?
Et mon éducation, eh bien, ceux qui s'en sont occupés se sont découragés assez vite, on va dire. Mais j'ai conservé des relations d'amitié avec le professeur Coponnet, qui était un homme extraordinaire, qui était un pédagogue extraordinaire, parce qu'il vit toujours, il se porte, Dieu merci, magnifiquement bien, malgré ses 87 ans. Et il avait deviné en moi un personnage qui n'avait rien à faire au Collège de Genève et qui aurait peut-être pu réussir autre part, au cirque, me conseillait-il. Et comme j'étais un élève assez dissipé, mais pas paresseux, je fabriquais, en ces temps lointains, un mastic. Oui, les élèves du Collège de Genève creusaient dans les pupitres de l'école ce qu'ils appelaient des tombeaux, c'était des trous assez spacieux dans lesquels ils enfouissaient un poème et le nom... Coco, laisse-nous le micro, je t'en prie. Coco, c'est le perroquet qui nous interrompt. Oui, ils laissaient dans ce tombeau le nom de leur petit ami et un poème. Et ils rebouchaient ce trou avec du mastic de vitrier. Ces trous étaient facilement décelables, on trouvait le trou, on découvrait le poème et on punissait le coupable. Et j'avais mis au point un mastic extraordinaire qui imitait le bois et que je vendais à mes petits camarades, non pas au faire des affaires parce que je ne gagnais pas un sou à ce petit commerce, mais tout simplement par altruisme, pour éviter des ennuis et pour que ces poèmes parviennent à la postérité. Voilà. Et un jour, mon bon maître Coponnet m'a dit, j'ai l'impression que je trouble votre petite industrie par mes cours, etc. D'un autre côté, comme vous êtes au premier rang, je m'occupe un peu de ce que vous faites, ça me distrait. Enfin, est-ce que nous ne pourrions pas établir un modus vivendi, par exemple, si je vous offrais le dernier banc de la classe? Bien loin, là-bas, vous seriez tranquille, vous pourriez faire votre mastic, et moi, je n'ai mes cours. Qu'en pensez-vous? Mais pourquoi pas? Et voilà, nous avons établi des relations de bon voisinage qui étaient troublées le samedi soir, parce que le samedi après-midi, il m'interrogeait pour récompenser les élèves quand ils s'étaient bien conduits pendant la semaine, il m'interrogeait sur l'histoire. Et là, j'étais assez brillant, par les réponses qui étaient imprévues et que j'improvisais sans cesse. Alors, j'avais le samedi après-midi pour moi. Et c'est comme ça que j'ai, à vrai dire, commencé ma carrière de comédien.
Mais il n'a jamais été question pour vous de reprendre le négoce paternel, de toucher à la charcuterie.
Hélas, pour faire plaisir à ma mère, qui voulait absolument que le commerce me revienne, j'ai dû faire le charcutier pendant un an et assassiner des cochons aux abattoirs, ce qui m'a laissé un souvenir que je ne peux pas oublier.
Oui, car il faut dire qu'il y a entre vous et les animaux votre vie quotidienne le prouve, puisque dans votre grande maison de Noisy, on trouve partout des animaux, et non pas des animaux encagés, mais des animaux apprivoisés, peut-on dire, des animaux familiers avec lesquels on sent que vous avez un contact permanent. Vous avez donc dû terriblement souffrir au moment d'assassiner des bêtes.
Oui, je souffrais atrocement parce que le cochon, qui est un animal extrêmement intelligent, et d'une sensibilité inouïe, malgré son apparence robuste, lorsqu'il arrive à l'abattoir, comprend exactement ce qu'il attend, et que suivant sa personnalité, il se rebelle, ou il pleure, ou il implore, ou il s'agenouille. C'était un spectacle atroce. Aujourd'hui, aux abattoirs, on tue les bêtes mécaniquement, elles sont amenées sur les chariots, c'est comme sur les usines Renault. Elles n'ont pas le temps de s'apercevoir, mais dans ces temps lointains, il y a 50 ans de cela, 40 ans de cela, c'était vraiment une tuerie, une boucherie, quelque chose d'épouvantable.
Je crois que physiquement, vous étiez très fort, n'est-ce pas? Vous étiez très sportif et que vous aviez déjà des histoires. C'est là que vous avez pu éprouver votre force contre les tueurs.
Ah, oui, oui. Oh, oui, oui, c'est, des histoires, j'en ai eu pas mal. Oui, je dois, du reste, à la boxe que j'ai apprise et puis que j'ai enseignée plus tard, de me sortir de pas mal d'affaires embêtantes. À l'aide de mes poings.
Car vous avez enseigné la boxe.
J'ai enseigné la boxe et j'ai eu un élève particulièrement brillant qui était Simet, qui fut à cette époque finaliste des championnats d'Europe.
Pouvez-vous nous parler de la boxe?
Oui.
Comment concevez-vous la boxe?
Je n'aime pas la boxe. Je n'aime pas la boxe. La boxe était pour moi une erreur de jeunesse. Je n'aime pas donner des coups, mais j'ai appris à donner des coups pour ne pas en recevoir. Voilà la nuance. Mais ceci dit, si on me donnait la permission d'exprimer mon idée sur la boxe, est-ce qu'on me donne la permission? Oui, on la donne. Et c'est un sport que je déconseillerais à tous les jeunes parce que tous mes amis boxeurs sont morts dans des conditions atroces, dans des asiles de fous, ruinés physiquement, gâteux à 40 ans. Voilà ce qu'on ne dit jamais, évidemment. Et je voudrais mettre en garde les jeunes qui se livrent à ce sport, ceux qui en font leur métier, ma foi, prennent des risques. Mais pour les amateurs qui n'ont rien à attendre, je voudrais les mettre en garde contre une chose extrêmement dangereuse et qui laisse des risques, qui laisse des suites pour toute la vie.
Ceci se passait encore à Genève, l'épisode de la boxe.
Ça se passait à Genève, oui.
Et vous étiez sur le point de monter, comme on dit, à Paris.
Ah, alors Paris, oui, ma décision de Paris m'a toujours attiré, même lorsque j'étais enfant. Et un jour, la grande Colette est venue présenter un numéro extraordinaire dans un cinéma de Genève, c'était à l'Apollo. La chair, un mimodrame qu'elle jouait avec Georges Vague. Elle était extraordinaire. Sa présence sur scène était quelque chose de prodigieux. Elle avait obtenu, je me souviens, un samedi soir, dans une salle très bruyante, une salle de quartier très populaire, un silence quasi religieux. Et son succès avait été tel que je voulais la retrouver à Paris. Je suis venu à Paris dans cette intention de la revoir. Malheureusement, je ne l'ai revue que longtemps après. Nous sommes devenus de grands amis. Mais ceci se passait en 1935. Et c'est en 1911 que je l'avais connu.
Dans la grande maison de la Malnoux, les bêtes parlent entre elles assurément. L'oreille de Michel Simon est subtilement accordée à ce faux silence au travers duquel la grande Colette des dialogues de bêtes traduisait les répliques échangées après déjeuner sur le perron ensoleillé entre Kiki la Doucette, chatte des Chartreux, et Toby Chien, son compagnon.
Kiki, tu dors? Est-ce que tu vis seulement? Tu es si plate. Tu as l'air d'une peau de savide.
Laisse.
Tu n'es pas malade?
Non, laisse-moi, Toby, je dors. Je ne sais plus si j'ai un corps. Ah, oh, quel tourment de vivre près de toi. J'ai mangé les 2 heures dormant.
Mais je ne peux pas. Quelque chose fait bouler dans mon estomac. Ça va descendre, mais lentement. Oh, et puis c'est mouche, c'est mouche. La vue d'une seule tire mes yeux hors de ma tête. Mais comment font-elles? Je ne suis que mâchoire hérissée de dents terribles et ces bêtes damnées m'échappent. Hélas, mes oreilles. Hélas, mon tendre ventre bistré, ma truffe enfiévrée.
Là, juste sur mon nez, tu vois, comment faire? Je lousse tant que je peux. Ah, il y a 2 mouches maintenant. Non, 1 seule. Non, 2. Je les jette en l'air comme un morceau de sucre.
Oh! Oh, c'est le vide que je happe. Oh, je n'en puis plus. Je déteste le soleil et les mouches. Et tout. Trop chaud.
Tu as réussi à m'éveiller. C'est tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mes rêves sont partis.
Mmh.
Alors, ce premier contact avec Paris, quel fut-il?
Le premier contact avec Paris, ouais, j'étais venu à Paris pour devenir aviateur. Et on m'avait fait à Issy-les-Moulineaux un stage d'un mois et demi pour le brevet. Et ma mère, absolument désolée à l'idée que j'allais me casser la figure, ce qui me serait certainement arrivé parce que j'étais assez risque-tout à cette époque, m'a supplié de n'en rien faire. Et je suis arrivé à Paris, décidé à me faire un chemin ailleurs, sans savoir exactement quoi. Et j'ai pensé qu'il fallait, dans ce cas-là, m'en remettre au destin. Alors j'ai pris le métro à la gare de Lyon. Et quand j'ai senti qu'il fallait descendre, que c'était le moment de descendre, je suis descendu à la station de la Porte Saint-Martin. Et je suis descendu dans un hôtel non loin de la station du métro, qui était l'hôtel de la Renaissance. Et là, j'ai vécu un an au milieu d'un monde extraordinaire, un monde interlope, vivant en dehors des lois. C'était une espèce de savane. Une savane où tous les instincts pouvaient se livrer, où les gens étaient éperdus de liberté et prenaient leurs risques. De temps en temps, un finissait sur l'échafaud, l'autre en prison, etc., etc. Et j'ai connu des hommes à cette époque vraiment extraordinaires, courageux, nobles, désintéressés, un peu fous, évidemment. Oui, c'était au moment de l'affaire Bonneau. De l'affaire des louis d'or en cristal qui se cassaient quand on les faisait sonner un peu trop bruyamment sur le zinc des comptoirs. J'ai connu là des hommes vraiment extraordinaires. C'était des anarchistes, des illégalistes, avec des théories un peu confuses. Enfin, celles que défendait avec le plus d'âpreté mon ami Sébastien Le Goff, c'était la théorie de la reprise individuelle. Oui, c'est comme ça que ça s'appelait. Et alors, Sébastien Le Goff était mon mentor et mon conseiller. Moi, je voulais faire de la danse acrobatique. J'en ai fait, du reste. J'ai débuté à Montreuil-sous-Bois, en 1912. Et il me disait, avec tes idioties, il employait un autre mot, évidemment, je ne peux pas dire au micro. Il me disait, avec tes machins, tu vas finir par te casser la gueule. Il dit, fais comme moi. Moi, j'ai deux frangines. Je m'en fais pas. Seulement, minute papillon, j'ai ma carte de forain. Avec une carte de forain, t'es toujours pépère, t'es toujours peinard. Je sors ma carte de forain, et puis voilà, et je prends mes distances. Et mieux que ça, je vais m'habiller à Réaumur, où vont se fringuer les poulets. Et j'ai l'air d'un poulet, et on me fout la paix, et la vie est belle. Qu'est-ce que tu vas faire des sauts périlleux en avant et en arrière? Ça va te conduire à quoi, tout ça? Et il m'a donné des conseils, comme ça que je n'ai pas suivi, du reste. J'étais vaniteux, je pensais que j'allais arriver par mes propres moyens. Et je suis arrivé par mes propres moyens, mais ce fut long.
Et quel était le Paris de ce temps-là?
Le Paris de ce temps-là était une ville merveilleuse. Une ville extraordinaire de calme, de silence. De temps en temps, un fiacre passait et les sabots du cheval martelaient le pavé. Et une fois ou deux dans la journée, il y avait une auto qui s'arrêtait avec des badauds qui stationnaient autour. C'était extraordinaire. On voyait partout des écriteaux, appartements à louer, chambres à louer avec cuisine, etc. Il n'y avait pas de problème. Quand on avait 100 sous dans sa poche, on était heureux. Il y avait des copains. Quand vous étiez dans la misère, ce qui m'arrivait très souvent, eh bien, quand cela m'arrivait, j'allais chez l'épicier. Et l'épicerie existe toujours, du reste. Et chaque fois que je passe devant cette épicerie, j'ai l'envie d'entrer. Et je n'ose pas entrer, parce que je sais que le miracle ne se produira plus. L'épicier me disait, ça ne fait rien, prenez ce que vous voulez, vous payerez une autre fois. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire bonjour. Voilà ce qui se passait de miraculeux à Paris. La bonté des Parisiens, leur générosité, cette politesse française mais qui n'avait rien à envier à la politesse millénaire chinoise, et qui se manifestait du matin au soir de mille façons. C'était, on allait au restaurant, et au bout de 5 minutes, on adressait la parole à son voisin, qui vous donnait des tuyaux, il disait, vous devriez aller voir ça, allez donc voir ça. C'était vraiment extraordinaire, une atmosphère de gentillesse qui, hélas, a disparu complètement.
Et quel était votre emploi à cette époque? Le mot est peut-être bien gros déjà, le terme.
Oui, mon emploi exact, c'est que j'étais un amoureux de Paris, à vrai dire. Et j'ai trouvé des trucs pour y subsister. D'une façon régulière ou irrégulière, par exemple, avec mon ami Le Goff, comme il n'avait pas pu me convaincre de prendre de frangines, on vendait des briquets automatiques. Mais ça n'était pas autorisé. On avait avec la carte de forain, on pouvait vendre des pièces détachées. On pouvait vendre le ressort, on pouvait vendre la molette, on pouvait vendre la mèche. Mais on ne pouvait pas vendre le briquet. De sorte que nous montions nos briquets, nous en avions plein les poches. Et moi, je baratinais le public, et lui gaffait les poulets. Et quand il voyait un poulet à l'horizon, on se débinait sur la pointe des pieds. Et comme ça, nous sommes arrivés une fois à nous faire 60 francs dans la journée. Ce qui est une chose énorme. Trois louis d'or, n'est-ce pas? Trois louis d'or, ben, ça fait aujourd'hui 9000 francs pour une heure de travail. Oui. C'était la belle vie.
Mais dans le domaine du théâtre proprement dit, est-ce que vous aviez une spécialisation dans ce domaine, dans ce milieu de la danse acrobatique? Est-ce que vous aviez un personnage à vous?
Vous savez, la danse acrobatique, à cette époque, ça n'était pas très compliqué. Évidemment, quand je vois les danseuses d'aujourd'hui, les danseurs, ce qu'ils font, ce que nous faisions était bien misérable. C'était vraiment assez primaire. Mais il en fallait peu pour épater le public, qui était bon enfant. Oui, je me souviens du public de Montreuil-sous-Bois, par exemple. C'était vraiment extraordinaire. Ils ne sifflaient jamais, ils étaient toujours contents. À l'Élysée des Beaux-Arts, ça se passait plus mal. Et l'Élysée des Beaux-Arts, qui est devenue, maintenant, on y donne des séances de boxe, mais à l'Élysée des Beaux-Arts, il y avait un spectacle de variété, et il y avait, dans l'après-midi, il y avait des présentations, des nouveaux numéros ou des débutants. Et généralement, il devait quitter la scène assailli par une volée de pommes de terre, des tomates, enfin dans le cas où ils avaient droit à l'indulgence du public, et quelquefois des petits bains et des lorgnettes. Voilà comment ça se passait à l'Élysée des Beaux-Arts. Nous avons tout de même affronté ce public, et je n'ai pas été sifflé. C'est quand même incroyable. C'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière, c'est d'avoir pu affronter ce public et d'en sortir vivant.
Est-ce que vous pensez que, professionnellement, vous avez appris quelque chose? Et notamment, est-ce que les notions du comique ont pu se dégager de cette expérience?
Les expériences que j'ai pu faire, c'était au Collège de Genève, où on m'accordait le samedi après-midi pour divertir les élèves, pour divertir la classe. Et mon contact avec Paris, avec la réalité de la vie, m'a enseigné évidemment un monde qui est beaucoup plus près des drames shakespeariens que des comiques de boulevard. Je crois que ma vie a été imprégnée beaucoup, et la façon dont j'interprète mes personnages a été imprégnée de ces souvenirs qui frôlaient souvent la tragédie.
Alors, la guerre de 1914 se présente. Vous êtes rentré en Suisse, je crois, à cette époque.
Je suis retourné en Suisse, où j'ai été mobilisé. Et là, j'ai expérimenté sur les soldats et sur les officiers, avec moins de succès, mais dont le comique. Et ce qui me valait, non pas des engagements, mais des séances à la salle de police d'abord, et puis au cachot ensuite. Alors, j'ai pu expérimenter que le comique devait se spécialiser plutôt dans des salles de spectacle.
Et la guerre terminée, naturellement, c'est Paris que vous retrouvez.
C'est Paris que je retrouve, oui. Et comme après un déluge, je suis revenu à Paris en 1920. Je l'avais quitté en 14. Et là, c'était vraiment, j'avais le sentiment d'une catastrophe effroyable. qui avait tout changé. Évidemment, les rues étaient là, il y avait davantage de voitures, mais les Parisiens n'étaient plus les Parisiens que j'avais connus autrefois.
Mais vous avez été photographe également dans votre vie, car lorsqu'on parle de Michel Simon, jeune, enfin, avant votre carrière d'acteur, on dit toujours Michel Simon était photographe. C'est une chose évidente.
Photographe, oui. J'étais photographe, et même... ce n'est pas une confidence, mais enfin, c'est une histoire que j'ai racontée déjà. Je suis l'inventeur du Leica. Oui, parce que j'étais photographe professionnel, et les examens qui étaient très difficiles en ce temps comportaient pas mal de choses. Notamment, on devait écrire une thèse sur la photographie. Et j'avais décrit un appareil qui était exactement le Leica. Ça avait beaucoup amusé les examinateurs qui ont dit « mais c'est plein d'idées, mais c'est absolument irréalisable oui, ». Et c'est très drôle du reste parce que j'ai connu en Italie un homme extraordinaire qui lui a fabriqué un Leica en 1903, je crois. Il a fabriqué des Leica. Et pensant que ça ne pouvait avoir aucun succès dans le commerce, il en avait fait faire 10 pour les donner à ses amis. C'est très drôle. Oui, comme les idées sont en l'air et qu'elles... Mais il faut trouver le gagnant de la loterie qui s'en saisit et qui sait l'exploiter, qui a la chance de pouvoir l'exploiter.
Et en quoi consistait exactement cette profession de photographe? Où l'exerciez-vous? Dans quel milieu?
Et je l'ai exercé à Genève, j'étais portraitiste, et c'est ainsi que j'ai fait connaissance de Ludmila Pitoyev et de Georges. En les photographiant leur troupe. Et un jour, en livrant des photos, j'ai montré mon affiche de danseur acrobatique. Et j'ai dit que, mon Dieu, le cas échéant, j'aimerais bien faire de la figuration dans leur théâtre, parce que ça me permettrait de suivre les représentations à l'œil, d'abord, et de trouver peut-être un vrai public. C'est ainsi que j'ai fait mes débuts en 1920, chez Pitoyev.
Avant de parler de cette période des Pitoyev, qui évidemment est fort importante dans votre vie, est-ce que je puis vous demander, comme je vous ai demandé tout à l'heure, un jugement sur la boxe, un jugement sur la photographie? Qu'est-ce que la photographie pour vous? Qu'est-ce que c'était?
La photographie est quelque chose de prodigieusement miraculeux. Et les artistes ont fait montre d'un ostracisme absolument idiot envers la photographie, en disant qu'elle allait faire de la concurrence à la peinture lorsque la photographie a commencé à s'imposer. Mais ils ignorent que Léonard de Vinci faisait de la photographie en son temps, qu'il se servait d'une chambre obscure et qu'il fixait son dessin à l'intérieur d'une chambre obscure. Et je crois qu'on peut se référer à Léonard de Vinci sans se faire traiter de charlatan. Et cette déconsidération de la photographie a éloigné des artistes de la photographie. Aujourd'hui, personne ne se gêne pour faire de la photographie d'art, et beaucoup y réussissent. La photographie n'est plus déconsidérée. Du reste, quand j'ai inventé mon Leica, je partais de ce principe que l'expression du modèle que voit le peintre est une synthèse du modèle, qu'il y a 1000 expressions qu'il a su cueillir et qu'il les choisit, qu'il les amalgame, qu'il vit avec son modèle. Or, la photographie qui saisit une expression en 2 ou 3 secondes ou en 5 secondes ne saisit qu'un tout petit moment d'une expression. Et si à cela vous ajoutez un flash, et si vous arrivez au 10 millième de seconde, il n'y a plus du tout d'expression. Une expression, c'est un état d'âme qui ne peut pas se fractionner à l'infini. Et j'étais parti de cette idée, quand j'ai inventé mon Leica, pour faire une trentaine de portraits, par exemple, d'un personnage, et de superposer les 30 expressions. On arrivait à une photo avec mon système, et une photo qui n'avait plus perdu la netteté photographique, mais qui se rapprochait beaucoup plus de la psychologie du personnage que l'on photographiait comme un peintre peut le faire en vivant dans son intimité. Je parle des grands portraitistes, évidemment, les grands portraitistes d'autrefois. Je pense à Holbein, je pense à ceux qui nous ont légué sur leur temps des témoignages prodigieux de vérité et d'humanité. Voilà quelles étaient mes théories ma petite invention. Inutile de dire qu'elles ont intéressé, mais en même temps qu'elles ont fait rire les examinateurs.
Par conséquent, nous voici en 1920. Vous venez d'être engagé par Georges Pitaïev. Que gagnez-vous à l'époque? Il n'est pas indiscret de vous le demander.
Oh, pas du tout. Pitaïev me donnait 10 francs par représentation, mais les représentations n'étaient pas très nombreuses. Mais à cela, j'ajoutais des petits gains, je photographiais la troupe et je fabriquais des accessoires. Je faisais la couronne de Macbeth, etc., et j'avais des petits gains à côté, ce qui m'a permis de suivre Pitaïev à Paris.
Et quel fut votre premier rôle dans cette compagnie?
C'était Hamlet. J'avais 3 rôles. J'avais le deuxième soldat, le deuxième fossoyeur et le rôle de Reinaldo.
Ce sont des rôles très courts.
Ce sont des rôles très courts et ceci se passait à la maison communale de Genève et qui m'a fait le premier soir, mon premier contact, une espèce de petit triomphe personnel. Ce qui va bouleverser, d'autant plus que je ne l'attendais pas.
Mais qu'aviez-vous à dire, le texte?
Eh bien, j'avais à dire... Oui, je n'étais pas gâté. J'avais à dire, il est minuit, Monseigneur. Il est minuit, Monseigneur. Et parfois, j'ajoutais une force mimique pour me rattraper cette indigence de texte. Et c'est ainsi que j'ai fait des débuts extrêmement brillants avec vraiment le minimum d'effort, de mémoire.
Et votre premier rôle véritable?
Mon premier rôle véritable, je pense que c'était le général Sorine de La Mouette de Tchekhov. J'étais vraiment heureux de découvrir un auteur adorable, qu'on ne peut qu'adorer quand on le connaît. Et qui a toujours été interprété avec une foi, avec un amour extraordinaire.
Et quelle était l'atmosphère de la troupe Pitaïev?
Eh bien, la troupe Pitaïev était évidemment pleine de foi, pleine d'enthousiasme. On jouait 5 fois une pièce. On en répétait une autre l'après-midi, une autre le matin. Et dans des difficultés financières invraisemblables, on se débattait. Et lorsque nous sommes venus à Paris, nous avons connu non seulement un très grand succès de presse, mais un succès d'argent également. On jouait devant des salles pleines, ce qui était évidemment revigorant.
Comment Georges Pitaïev conduisait-il ses acteurs? Quels sont les contacts que vous avez eus avec lui?
Georges ignorait magnifiquement les acteurs. Il les ignorait à ce point qu'il ne s'est jamais occupé de ce que les acteurs fabriquaient en scène lorsqu'ils n'y étaient pas. Quand ils y étaient, évidemment, ils s'imposaient. Ils n'attendaient pas toujours les réponses pour parler. Et un jour, c'était peu de temps avant sa mort, c'était en 1939, je lui ai posé une série de questions qui, je pensais, allaient le gêner, mais pas du tout. Je lui ai dit, au fond, il m'avait dit qu'il l'avait fait 200 mises en scène. Et je le félicitais sur cette fécondité invraisemblable. Et il me dit, mais ce n'est pas 200 mises en scène que j'aurais voulu faire, j'aurais voulu en faire 2000. Alors je lui dis, en somme, votre pire ennemi, c'est le succès. Le succès d'une pièce qui vous empêche de faire la mise en scène d'une autre. Il me dit, évidemment. Je lui dis, enfin, ce qui peut vous arriver de plus agréable comme metteur en scène, c'est un échec total. Mais bien sûr. Je dis, au fond, l'idéal pour vous, c'est la tape noire qu'on ne joue qu'une fois. Mais évidemment, et c'était vrai. C'était vrai. Georges Pitaïev avait une imagination délirante. Il lui fallait faire de la mise en scène du matin au soir, constamment. Il la réalisait sur des petits bouts de papier, partout où il se trouvait. Il y avait une chose qui lui a empoisonné la vie, c'était non seulement le succès, mais c'était les acteurs, c'était les auteurs, tout ce qui l'empêchait de faire de la mise en scène, le directeur du théâtre, qui disait, mais non, on ne va pas jouer une autre pièce, celle-ci marche bien. Et il ne savait plus quoi faire, il se morfondait, il sentait que le temps lui échappait, qu'il n'allait pas faire la mise en scène de la pièce à laquelle il rêvait. Et, mon Dieu, sa fin prématurée m'a expliqué bien des choses. Évidemment, il aurait voulu vivre très longtemps. Peut-être pensait-il que son temps était limité, qu'il avait beaucoup de choses à dire et qu'on ne lui accordait pas ce temps-là. Et que son pire ennemi, c'était le succès.
On a dit que la vie de la compagnie Pitoreff était très chaotique. Est-ce exact ?
Oui, bien sûr. À vrai dire, c'était une vie de misère, de labeur, d'inconfort. Il fallait avoir la foi, il fallait y croire, il fallait un tas de choses qui m'ont manqué un jour. Et c'est ainsi que j'ai quitté l'illustre compagnie pour aller au Palais Royal. Ah, il en a été bien puni, disaient tous mes camarades.
Que jouiez-vous au Palais Royal ?
Et je jouais, c'est Tristan Bernard qui m'avait fait entrer au Palais Royal et qui m'avait promis un rôle magnifique, mais il n'a jamais eu le temps d'écrire ce rôle magnifique. Il m'a apporté quelque chose de bâclé, approximativement 8 jours avant la générale. Et le rôle n'était pas magnifique, et moi non plus, je n'étais pas magnifique, et ça a duré un an.
Et ensuite, quelles ont été vos tribulations avant d'aborder le cinéma ?
Avant d'aborder le cinéma, bien oui, c'est l'Herbier qui m'a fait débuter au cinéma dans un film muet qu'on a tourné avec Mazzucchini à Venise en 1924. Marcel L'Herbier venait dans tous les théâtres d'avant-garde. C'était, mon Dieu, pain béni, parce qu'on a un spectateur de plus à cette époque. Et c'est ainsi que j'ai fait mes débuts au cinéma, grâce à Marcel L'Herbier.
Alors, par la suite.
Et par la suite, j'ai continué ma petite industrie jusqu'il n'y a pas très longtemps encore. Voilà. En connaissant des hauts, des bas, des succès, des triomphes, des tapes, etc. Je crois que la vie de tous les comédiens est faite de ces écarts qui n'ont souvent rien à faire ni avec le talent de l'acteur ni avec la qualité d'une pièce, mais des questions d'opportunité. Il y a des pièces qui réussissent dans tel théâtre ou qui sortent hors de saison, etc. Et que l'on repense, comme les films du reste. Certains de mes films ont été des désastres et puis repris 10 ans après, ils ont connu des triomphes, enfin, c'est ce qu'on sait. Dans ce cas-là, il faut évidemment consulter la carte ancienne.
Quel est, selon vous, le rôle qui vous a permis d'accéder au succès du grand public et de devenir Michel Simon ? Comment êtes-vous né au jour ?
Oui, c'est grâce à Achard et au personnage extravagant de Clo-Clo, de Jean de la Lune, que j'ai connu un contact, et grâce au cinéma, inutile de le dire, que j'ai connu un contact avec le grand public, l'immense public de toute la France métropolitaine et des colonies. Parce qu'un succès au théâtre, mon Dieu, ça ne touche pas un très grand public. Les acteurs qui ne font que du théâtre connaissent une audience, en somme, assez réduite, puisque même à 1000 places par soir et 300 représentations, on ne touche que le centième. Ce en quoi, lorsqu'on me demande que préférez-vous, le théâtre ou le cinéma, je suis bien embarrassé de répondre. Si c'est pour avoir un contact avec le public, évidemment, le théâtre s'impose. Si c'est pour avoir un contact universel, c'est le cinéma qui triomphe. Le cinéma m'a apporté de grandes joies en ce sens que j'ai reçu des lettres de tous les pays du monde, du Japon notamment. J'ai reçu des lettres du Japon qui m'ont vraiment bouleversé. Ils ont vu que j'avais là-bas des amis qui me comprenaient, qui m'admettaient dans ma totalité.
Oui. Je vous ai demandé tout à l'heure de porter un jugement sur la boxe, puis ensuite un jugement sur la photographie. Je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, de porter un jugement sur le comique. Comment trouve-t-on, comment un acteur arrive-t-il à sortir les ficelles comiques d'un personnage qui lui est proposé ? Car elles ne sont pas toujours évidentes.
Oui, je n'ai jamais cherché... je touche du bois, j'espère arriver à la fin de ma carrière avec cette volonté d'être probe vis-à-vis de l'auteur et du public. Je n'ai jamais cherché à faire rire, jamais. Le comique doit naître, je pense, d'une très grande sincérité. L'auteur imagine un personnage, il le réussit ou il le rate. L'interprète doit être son interprète, il ne doit rien ajouter à ce que l'auteur a écrit. Ça ne m'a pas réussi, toujours, je dois le dire, mon honnêteté vis-à-vis des auteurs. Et il y a beaucoup de comiques qui en ajoutent, qui en retranchent, qui font quelque chose d'autre, qui font rire avec des trucs, avec des ficelles, il y a des procédés qui sont immanquables pour provoquer le rire. Ça, je touche du bois, mais je n'y ai jamais eu recours et j'espère bien finir ma carrière sans devenir un guignol.
Il me semble, Michel Simon, que par tempérament, vous êtes un solitaire et que vous avez une certaine crainte de la foule et de la ville. Votre ville prouve d'ailleurs, puisque vous êtes venu vivre dans une campagne assez retirée, entourée d'animaux et, je le disais tout à l'heure, de bêtes familières, n'est-ce pas, qui vivent autour de vous.
Oui, je ne trouve vraiment mon équilibre qu'auprès de la nature. Ici, vous voyez, il y a des arbres auxquels je n'ai jamais touché. Il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des créatures de Dieu, parce que je pense que c'est Dieu qui les a créées également, avec lesquelles je sympathise immédiatement. Ce qui est le fait de la culture, m'échappe souvent. Il y a des modes, il y a des engouements que je ne peux pas suivre, et c'est pourquoi je me suis retiré. Je me suis retiré il y a déjà 23 ans de cela et que j'ai préféré vivre en dehors de tout.
Vous me parliez tout à l'heure d'un animal qui a tenu une place importante dans votre vie. C'est une guenon qui était devenue une guenon très très familière, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle ?
Oui, Zaza, je parlais, c'est très, très extraordinaire question que vous me posez en ce moment et ça me touche beaucoup. Parce que Léoto, chaque fois que je le rencontrais, me demandait de lui raconter des histoires de Zaza. Et cet homme que l'on a fait passer pour un cynique, il avait des yeux bleus, ingénus, il avait des yeux d'enfant, il écoutait les histoires de Zaza religieusement. Mais je pouvais les raconter à Léoto, qui était un pur, et j'éprouve souvent des scrupules à les raconter, parce qu'elles sont à peine croyables pour qui ne connaît pas les bêtes, évidemment. Zaza était venue chez moi parce que son maître, qui habitait le Gabon, elle était très coquette. Elle adorait se coiffer et se mettre de la poudre de riz. Et un jour, au Gabon, son maître lui avait acheté une paire de boucles d'oreilles. Et comme elle les perdait, il avait fait sceller ses boucles d'oreilles. Et des Noirs avaient arraché ses boucles d'oreilles, pensant qu'elles avaient une grande valeur. Ils avaient arraché le lobe de l'oreille. Et Zaza avait gardé une espèce de rancune. Elle était peureuse, elle était très craintive. Elle n'osait pas se livrer. Elle avait peur des êtres humains, comme elle avait raison du reste. Et quand elle est arrivée chez moi, elle s'est livrée. Elle était prodigieuse, elle vivait comme une personne. Elle avait sa chaise, elle avait son couvert, elle avait son lit qu'elle faisait et qu'elle défaisait. Elle vivait exactement comme un être humain. Et elle s'est épanouie, elle a connu chez moi un an de bonheur. Moi, j'ai dû tout abandonner pour Zaza parce que quand je n'étais pas là, elle ne mangeait pas. Alors je refusais les affaires de cinéma, je refusais un tas de choses. Et je vivais avec Zaza, qui était un être passionnant. Par exemple, je vais vous raconter cette histoire. Elle était tellement habile de ses mains qu'elle attrapait des mouches, mais sans aucun effort. Elle les attrapait dans l'air. Et chaque fois, j'étais étonné. Et je disais, c'est une blague, tu n'as pas de mouche dans la main, montre-moi. Elle ouvrait ses doigts et la mouche s'envolait. Elle n'a jamais tué une mouche. Elle était bonne. Elle, par exemple, Et elle pâlissait, c'était un croisement de gorille et de chimpanzé, elle avait le visage tout noir. Et elle pâlissait, vraiment, son visage devenait gris quand elle voyait un chat sauter de la table par terre. Elle avait peur que le chat se blesse en tombant. Alors, elle prenait le chat et lui montrait comment il fallait descendre d'une table. Le chat ne comprenait rien à la leçon et continuait à sauter. Elle me prenait à témoin et s'arrachait les cheveux de la tête. Je me disais, c'est incroyable, cet idiot finira par se tuer, je n'arriverai jamais à faire son éducation. Telle était Zaza, elle était bonne. Je faisais de la couture, elle avait... Oui, elle cousait très bien. Elle cousait et puis elle coupait le fil avec ses dents. Elle le nouait. Elle faisait d'autres choses extraordinaires. Par exemple, elle m'écrivait des lettres. Je lui avais acheté... Oui, elle écrivait, elle adorait écrire. Alors je lui avais acheté du papier à lettres et des enveloppes. Et de temps en temps, elle m'écrivait une lettre. Évidemment, il s'agissait de bâtons, il s'agissait d'un griffonnage, mais assez bien fait. Elle suivait les lignes du papier, ça. Elle m'apportait la lettre et je devais lire la lettre devant elle et manifester un tas de sentiments qui l'amusaient ou qui l'attristaient, suivant. Et ensuite, elle me retendait la lettre, il fallait une deuxième lecture, enfin une troisième lecture. Et puis quand elle sentait que je commençais à être fatigué, que mes mimiques se répétaient, alors elle remettait la lettre dans son enveloppe et puis on passait à d'autres exercices.
Et quel était son comportement vis-à-vis des autres singes?
Il y a un mépris total. Les autres singes n'étaient évidemment pas de sa classe. C'était vraiment des quadrumanes, tandis qu'elle se tenait toujours assise ou debout. Elle renonçait à marcher à quatre pattes. Ce qui la faisait beaucoup souffrir, parce que les singes sont faits pour marcher sur leurs mains. Alors, quand elle passait devant la cage des autres singes, elle adorait passer du reste devant leur cage en trottinette. Et quand elle passait devant leur cage, elle prenait une poignée de gravier et leur jetait comme ça en leur tournant le dos par-dessus l'épaule, ce qui était un geste de mépris effroyable qui rendait les autres singes fous furieux.
Mais quel est cet oiseau que nous entendons chanter si mélodieusement actuellement?
Ça, c'est Coco, ça. C'est Coco. Il ne siffle pas bien. Alors, ça, c'est Cocotte qui siffle magnifiquement, mais qui est très timide et qui n'osera. Cocotte! Dis quelque chose au micro. Cocotte. Cocotte. Elle est timide, elle siffle extraordinairement bien. Et alors, Cocotte a fait une chose extraordinaire. Ma maison a été occupée par les nazis au début de la guerre. Et chaque fois, pendant un mois et demi, un officier nazi et son ordonnance s'attablaient à midi. Et Cocotte leur sifflait la Marseillaise. Et quand je suis revenu en 42, mes domestiques m'ont raconté cette histoire extravagante. Enfin, finalement, les nazis qui n'avaient pas le droit d'occuper ma maison sont partis. Et alors, je lui ai demandé de siffler la Marseillaise. 1000 fois, elle ne l'a plus jamais resifflé. Voilà Cocotte. C'est un perroquet de génie, c'est incroyable.
Et quel est cet oiseau qui se trouve dans une cage extérieure, sous la fenêtre de cette chambre là-haut? Dans le jardin.
Alors, ça, c'est un moineau qui était tombé du nid et que j'ai recueilli à Aix-les-Bains et que j'ai nourri à la béquille. Il fallait que je me lève à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, le donner à la béquille toutes les 2 heures. Et puis, l'oiseau, c'est une petite femelle de moineau, quand elle est devenue adulte, a réclamé sa liberté. Je lui ai ouvert la porte toute grande. Elle est allée sur le balcon, elle a réfléchi longuement, elle est retournée dans sa cage. Et 8 jours après, comme elle commençait à rouspéter également, que je l'enfermais, je lui ai de nouveau ouvert la porte. Elle est de nouveau retournée sur le balcon, elle a médité longuement sur ce qu'il attendait dans cette forêt vierge, et puis elle est retournée à sa captivité. Voilà comme elle est. Et comme dès que la porte était fermée, elle rouspétait, alors j'ai fait une ouverture dans le treillage. Je lui ai dit, voilà. Tu sors, tu rentres, quand tu veux. Mais ne m'embête pas, ne me dis pas que je te retiens, que je te séquestre, ce n'est pas vrai. Tu racontes des histoires aux moineaux qui viennent tous les matins m'insulter, me raconter du sais quoi. Alors voilà ta fenêtre, tu peux t'en aller et rentrer quand tu veux et t'en aller pour toujours, à ne jamais remettre les pieds chez moi, puisque tu ne te plais pas, que tu es malheureuse et que je te séquestre. À partir de ce moment-là, elle s'est tenue tranquille. Elle a évité de regarder ce trou béant qui le conduisait à sa liberté et peut-être au hibou qui l'attend. La nature, quand on la regarde de près, n'est pas tellement accueillante, quoi qu'en pense Lamartine. Alors, depuis que sa fenêtre est ouverte, elle se tient tranquille. Elle ne dit plus rien. Elle ne proteste plus. Et la liberté, elle l'a, elle n'en veut pas. Elle préfère sa pâté bien copieuse et pas d'embêtements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ainsi faits, du reste. Qui réclament la liberté, quand ils l'ont, ils ne savent pas quoi en faire. Non.
Et les sages qui se trouvent enfermés là-bas, ils ont l'air beaucoup moins accueillants.
Ah oui, alors ceux-là, je les ai acquis pour distraire Catherine. Catherine a vécu, c'était une femelle de religieuse, elle a vécu 26 ans avec moi, 26 ans, c'est-à-dire qu'elle a à peu près partagé ma vie. Et sur ces vieux jours, elle avait perdu son compagnon. Et c'était un couple qui avait vécu 24 ans ensemble, et le mâle n'était pas de sa race. La chose la plus extraordinaire, j'ai essayé de les accoupler chacun. Mais ils avaient passé leur enfance ensemble, ils ne voulaient pas se séparer. Lui a renoncé à avoir une femelle de sa race, elle a renoncé à avoir un mâle de sa race. Ils ont vécu jusqu'à leur mort ensemble. C'est une chose assez bouleversante, du reste. Et alors, lorsque Catherine a perdu son mari, Mully, je lui ai fait un petit zoo pour la distraire. Elle était vieille, un peu impotente, et je lui ai acheté des petits singes. Et comme elle était en liberté, elle allait devant la cage voir les singes évoluer sur leur trapèze et faire leur tour. Et au bout d'une demi-heure, elle me rejoignait. Elle avait assez ri.
Eh bien, Michel Simon, je vous ai demandé de porter bien des jugements au cours de cette émission, et je m'en excuse. Est-ce que je puis vous demander, pour conclure, de porter un jugement sur les animaux que vous connaissez si bien et que vous aimez ?
Oui, je pense que... on juge les animaux très mal quand on ne vit pas avec eux que d'une façon quotidienne, et que tout ce qu'on a écrit sur eux, tout ce qu'a écrit M. de Buffon, par exemple, c'est une suite d'erreurs invraisemblables. Pline également a écrit des bêtises incroyables sur les animaux. Et je pense qu'on devrait recueillir les témoignages de vieilles filles qui vivent 20 ans avec un chat, ou 20 ans avec un chien, ou 30 ans avec un perroquet, pour savoir ce que sont les bêtes. Et de ne pas se référer aux témoignages d'écrivains qui écrivaient avec des manchettes et qui ne les ont pas connus. Je pense que le premier qui a commencé à approfondir, c'est Fabre. Et qui a passé sa vie couché et à observer des insectes et vivre de leur vie. Je pense que c'est le premier qui a compris quelque chose. Les bêtes vivent comme nous, elles subissent les mêmes influences, elles ont également leur horoscope, elles suivent leur destin. Elles connaissent les mêmes drames, les mêmes tragédies que nous connaissons. Elles sont malheureuses, il y en a qui ont des vies malheureuses. La pauvre petite Zaza, qui n'a vécu qu'un an avec moi, qui était douée, qui était d'une intelligence, qui avait du génie, mais n'a vécu qu'un an ici. Et pourquoi ça? Je pense que ceci nous incline à la philosophie et à un certain renoncement à soi-même et à un tas de choses. Et que c'est, mon Dieu, ce n'est pas si mal. Ce sont, je pense, d'excellents professeurs.
Dans le cadre de l'émission Les Chemins du Jour, Luc Bérimont vous a présenté Michel Simon. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide, avec les voix d'Armontel, Muse d'Albret, Tristan Sévère. Mise en onde, Bernard Gandréretti. Collaboration artistique, Anne Spies.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 août 1956 sur France 2 régionale. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.